Radio Kapi.
Les informations, Lévin Mbwinga.
Bonsoir et merci de votre fidélité à Radio Kapi. Au sommaire de ce journal, au moins 21 civils ou plus exécutés à Goma dans le Nord Kivu. Révélation de l'organisation internationale Human Rights Watch hier mardi. Elle affirme dans un communiqué que les bourreaux de ces victimes sont des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Dans ce journal également, la réaction du porte-parole du gouvernement. Et puis grogne au sein de l'Office congolais de contrôle. Le président de la délégation syndicale nationale de cette entreprise appelle au calme. Shiro Shiruza invite les agents et cadres à se tourner vers les travaux de la commission mixte qui sont prometteurs. 25e anniversaire de la guerre de 6 jours aujourd'hui, 4 juin. Action pour la justice, le développement et les droits humains compte organiser une série d'activités. Le directeur exécutif de l'AJDDH et notre invité, Jedidia Mabela, nous en parle dans quelques minutes. Encore une fois, bonsoir. D'abord, cette alerte de Human Rights Watch, cette ONG de défense des droits de l'homme, signale que des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont exécuté sommairement au moins 21 civils et vraisemblablement un nombre beaucoup plus élevé à Goma. Dans un communiqué parvenu hier mardi à Radio Kapi, l'organisation internationale précise que ces meurtres ont été commis entre les 22 et 23 février dernier dans le chef-lieu du Nord Kivu. Explication Blaise Ndongala Mayanda.
L'ONG Human Rights Watch cite des témoins qui affirment avoir vu, le 22 février dernier, les rebelles du M23 arriver à différents endroits du quartier Kasika à Goma à bord de 3 véhicules pick-up. Selon cette organisation internationale, ces rebelles ont exécuté 7 personnes à l'ouest du camp militaire de Katindo et les corps des 11 autres personnes, dont un garçon, ont été retrouvés sur un chantier de construction près de ces mêmes camps militaires. Les mêmes sources rapportent qu'un jour après, soit le 23 février, ces combattants ont rassemblé des personnes, notamment pour les recruter de force, et ont tué 3 personnes alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Pour Human Rights Watch, les contrôles brutaux exercés par les M23 sur Goma a instauré un climat de peur parmi les personnes suspectées d'être alliées au gouvernement congolais. Entre février et mai dernier, Human Rights Watch dit avoir mené des entretiens par téléphone avec 22 personnes, dont des témoins de meurtres, des proches des victimes ainsi que des professionnels de santé.
Face à ces révélations, la réaction du porte-parole du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Patrick Muyaya affirme que ceux qui occupent le Nord Kivu aujourd'hui gouvernent par des crimes. Selon l'autorité, les rebelles sèment la terreur au sein de la population afin que cette dernière puisse les craindre. Patrick Muyaya Katembwe le dit au micro de Blaise Shindani Kambala.
Lorsque vous lisez le rapport d'Amnesty International sorti la semaine dernière, lorsque vous lisez le rapport de Human Rights Watch sorti aujourd'hui, vous vous rendez compte de la barbarie, de la terreur et de la gouvernance par crime. J'insiste sur le mot crime, parce que la volonté claire, c'est de s'aimer la terreur. La volonté claire, c'est de dire plus on tue, mieux c'est. Parce que plus on tue, plus on sème la terreur, plus on est craint. Et c'est tellement paradoxal de voir les mêmes qui sont auteurs de ces crimes odieux, de ces massacres, vouloir se présenter comme des sauveurs. J'entends de bruit du genre Kinshasa punit les populations du Kivu parce que les secteurs bancaires n'est pas opérationnel. J'y avais répondu ici. Mais tenez-vous bien, quelle est la banque qui va, par exemple, accepter de travailler avec un mouvement qui est sous sanction américaine. Qu'on ne vous trompe pas, les leaders, ces supplétifs, n'ont pas le droit d'utiliser d'aucune manière les dollars américains.
Pour sa part, la Dynamique sociale pour le développement et la paix, plateforme de la société civile, elle opte plutôt pour un dialogue immédiat entre le président de la République et l'opposant politique Martin Fayulu, dont elle salue l'engagement pour la paix en RDC. Dans une déclaration faite ce mercredi dans la capitale, le coordonnateur national de la DSDP et avocat au barreau de Kinshasa Gombe pense que cette rencontre très attendue pourra déboucher sur la formation d'un gouvernement d'union nationale et résorber la question de sécurité dans sa profondeur. Ramazan Chabani est au micro de Jeff Ngoy.
Il y a un besoin urgent d'un dialogue inclusif afin de résoudre tous les problèmes de manière pacifique. Mais nous estimons en même temps que le fait pour le président Martin Fayoulou de rencontrer le président de la République pour parler des problèmes de fond, ainsi nous estimons si de ce dialogue-là débouchera un gouvernement d'union nationale, au moins avec le camp Fayoulou et les autres qui pourraient rejoindre, il y aura formation des deux blocs. Et ça sera plus facile de résoudre les problèmes en deux blocs qu'actuellement où nous sommes confrontés, nous, les artisans de la paix, nous qui sommes impliqués dans le processus. Et ça sera plus facile de résoudre le problème quand c'est deux blocs plutôt que maintenant où il y a composition de blocs multiples. Nous soulignons un fait, il y a un besoin très urgent d'une paix durable. Il faut donc éviter des mesures provisoires. Il faut aussi éviter de renvoyer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain.
Retour à la grève au sein de l'Office congolais de contrôle avec cet appel du président de la délégation syndicale nationale de cette entreprise, Shiro Shiruza, invite les agents et cadres au calme et à faire confiance aux travaux de la commission mixte qui ont débuté depuis jeudi 29 mai dernier et qui se clôturent aujourd'hui mercredi. Les pourparlers entre la délégation syndicale nationale de l'OCC et l'employeur sont en cours pour décanter cette situation, affirme-t-il. Shiro Shiruza est au micro de Vanessa Nkongolo.
Nous, de la délégation syndicale nationale, nous savons bien que nous sommes en réunion mixte avec l'employeur. La réunion a commencé le jeudi, elle prendra fin le mercredi. Tout le problème que nous avons, je crois que c'est le cadre bien choisi pour poser ce problème. Les amis délégués étaient aussi invités. Ils ont préféré ne pas venir à la réunion mixte pour organiser ce qu'ils sont en train de faire là. Qui n'est même pas une grève. Si nous lisons notre convention collective à son article 11, on donne la procédure pour qu'il y ait grève. À l'article 11, il est dit... De la grève, les parties s'interdisent d'avoir recours à la grève ou au lockout pendant les délais de préavis, des dénonciations ou de la révision des conventions collectives et pendant la durée des négociations. À son point B, il est dit, en cas de cessation collective de travail, les parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder les moyens de fonctionnement de certains services de l'entreprise et assurer les prestations d'intérêt public et humanitaire conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler de la grève à l'OCC.
L'actualité, c'est aussi les communautés voisines Hema-Lendou, des groupements Bédou, Ezekere et Tambaki, qui enterrent la hache de guerre. En tout cas, elles ont décidé de mettre fin à leurs différends pour vivre désormais ensemble. C'était au cours d'un dialogue intercommunautaire qui a réuni les chefs coutumiers de ces entités et les leaders de différentes organisations féminines issues des deux parties mardi à Mandro, à 12 km de Bounia, en Ituri. Des assises organisées par la section genre de la MONUSCO. Il faut dire que les membres de ces entités ne se fréquentaient plus depuis environ 5 ans. Reportage de Bilobati, rendu par Isaac Remoyope.
Les habitants des Tambaki dans la chefferie de Bema Banyuagi disent souvent être victimes de meurtres, des viols et des pillages de leurs bêtes par leurs voisins de Bédou et Zekere dans le secteur de Walendu Tatsi. Ces derniers déploraient à leur tour la destruction de leurs champs par les bêtes de leurs voisins Ema, mais aussi la mauvaise distribution de la justice au profit des éleveurs Ema en cas de litige. Cette situation a refroidi les relations entre les membres des deux entités jusqu'à la rupture totale des fréquentations depuis environ 5 ans. Les échanges commerciaux étaient également suspendus entre les deux parties. Face à cette tension communautaire, la section genre de la MONUSCO a initié plusieurs rencontres qui ont regroupé les chefs coutumiers des Peni et Bédou Ezekere ainsi que les leaders des associations féminines du côté Lendou. D'autre part, les autorités coutumières des Sala et Tambaki ainsi que les femmes leaders communautaires. L'objectif était de réconcilier les deux parties pour la promotion de la paix et des cohabitations pacifiques. À l'issue de ces assises, les participants ont résolu de mettre fin à leurs différends et de se fréquenter mutuellement comme dans le passé. Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Cap sur Maniema, où le gouvernement provincial appelle les populations de Kayuyu à regagner leurs milieux respectifs. Ces habitants, vous le savez, avaient fui leur village à la suite des affrontements entre les Wazalendu et la population de ce chef-lieu du secteur de Wakabango 2. Le ministre provincial de l'Intérieur parle d'une accalmie après le déploiement des forces de sécurité à Kayuyu. C'était à l'issue du conseil de sécurité tenu hier mardi. Lawamo Selemani Taylor demande en même temps aux Wazalendu qui sont dans la ville et même à l'intérieur de rentrer chacun dans son fief en attendant leur identification. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Il y a des troubles au niveau de Kayuyu, chef-lieu du secteur de Wakabango 2. Les Wazalendo se sont attaqués à la population, mais jusqu'ici, nous n'avons pas encore enregistré les pertes en vies humaines, mais on déplore les déplacements de la population et surtout la perturbation des examens hors session. Aussitôt saisi, l'autorité provinciale, à travers le conseil provincial de sécurité, avait décidé de pouvoir déployer une commission qui est déjà arrivée au niveau de Kayuyu et qui a déjà réussi à maintenir l'ordre public. C'est pourquoi nous invitons aux parents et à la population de pouvoir regagner leur parcelle et surtout les enfants qu'on les amène pour qu'ils passent leurs examens. Alors, la question des Wazalendo, comme on l'a toujours dit, c'est un casse-tête. C'est pourquoi nous demandons à tous les Wazalendo qui sont en train de défiler toute la journée avec couteau, machette et lance en créant la psychose à la population que chacun puisse regagner son fief en attendant la délégation mixte qui va venir pour les identifier, les regrouper et surtout les former pour qu'ils soient utiles aux côtés des FARDC.
Parlons santé à présent. 1639 cas de choléra ont été rapportés, dont 134 décès depuis le début de l'année, et ce, dans quelques zones de santé de la ville de Kisangani et dans quelques entités sanitaires de la province de la Tchopo. Révélation faite par Dr. Franck Mébois mardi au cours d'un briefing avec la presse locale. Quelles dispositions faut-il prendre au cas où une personne est affectée? Dr. Franck Mébois, chargé des opérations d'urgence à la division provinciale de la santé, explique au micro de Jacques Moukonkole.
Il y a deux dispositions. La première, c'est ça dépend du niveau de désertation, comme on dit. S'il est au plan A, en fonction du niveau de désertation, il peut juste prendre le SO, le sérum oral, le sérum de réhydratation orale. Ça peut se faire soit au niveau des centres de santé qu'il a notifié, soit on les transfère au niveau des centres beaucoup plus spécialisés qu'on appelle les centres de traitement des cas de choléra, CTC. Donc ça se trouve pour la ville ici, ça se trouve au niveau de Makiso Kisangani. Là, on peut prendre en charge tous les plans. Mais si on n'est pas à mesure de prendre ces produits-là, là, il faut perfuser et donc il faut s'amener au niveau des centres de traitement des épidémies et là, on va prendre efficacement.
Quelle est la contribution de l'UNICEF qui s'en gagne dans la lutte contre le choléra?
Actuellement, l'UNICEF prend en charge de manière holistique. D'abord, les cas au niveau des centres de traitement des épidémies, mais aussi avec des actions communautaires, sensibilisation, surveillance à base communautaire, désinfection, décontamination, tout ça, ça sera pris en charge.
Plutôt bonne nouvelle du côté de l'Ituri, plus de 20 000 enfants de 6 mois à 15 ans, dont des déplacés, sont vaccinés contre la rougeole dans la zone de santé de Drodro, dans le territoire de Djougou. C'est au cours d'une campagne de vaccination contre cette maladie, campagne qui s'est clôturée lundi dans la zone. Cette activité a été organisée par la Direction provinciale de la santé avec l'appui de l'ONG internationale Médecins sans frontières dans le but de contenir cette maladie déjà déclarée dans plusieurs entités locales. Le point avec Ezekiel Mousalia.
Au total, 9 sites de vaccination contre la rougeole ont été installés dans différentes localités dans la zone de santé des Drodro dans le territoire des Djougou. Le premier a été placé dans le camp des déplacés des Ro qui compte en moyenne 70 000 personnes, à majorité des femmes et des enfants. Dans ces sites, une dizaine d'enfants ont été testés positifs de la rougeole. D'autres cas suspects sont déclarés dans la communauté où de nombreux habitants vivent dans des conditions difficiles. Cette campagne s'est déroulée dans les entités des Blukwa Eta, Blukwambi, Mazé et Jissa pour juguler cette maladie qui se manifeste entre autres par l'éruption cutanée, le rugissement des yeux ainsi que l'écoulement nasal. Au total, 20 300 enfants ont reçu ces vaccins pour prévenir cette maladie contre 18 000 attendus au départ. Cette augmentation est due à l'afflux de déplacés dans les sites et dans la communauté où s'observe une forte promiscuité, indique Zeilembou, infirmier titulaire du centre de santé de Blukwa Eta. Cette campagne s'est déroulée grâce à l'appui logistique de l'ONG Médecins sans frontières dans la zone de santé de Drodro qui compte environ 205 000 habitants. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Économie, le ministre des Finances appelait à travailler avec le Sénat pour rendre opérationnelle la caisse de péréquation dans un bref délai, cela en vue de permettre aux provinces de fonctionner effectivement. C'est ce qui ressort de la plénière d'hier mardi à la Chambre haute du Parlement, plénière consacrée à l'examen de 5 projets de loi. Il s'agit notamment des projets de loi portant ratification des ordonnances, lois promulguées par le chef de l'État pendant les vacances parlementaires. Parmi ces lois, il y a celle portant ratification des accords de prêt estimé à 43,5 millions de dollars américains.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, 4 personnalités de l'opposition sont définitivement exclues de la présidentielle. L'opposant Tidjane Thiam a bien été radié de la liste électorale définitive. Le nom du président du PDCI n'apparaît pas sur la base de données mise en ligne dans la nuit du mardi 3 à ce mercredi 4 juin par la commission électorale indépendante. Celle-ci a donc expliqué la décision de justice ordonnant la radiation de cet opposant. Autre opposant absent de la liste électorale, Laurent Bagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé.
L'invité.
Le 25e anniversaire de la guerre de 6 jours, c'est aujourd'hui 4 juin, à Kisangani Action pour la justice, le développement et les droits humains compte organiser une série d'activités, notamment une messe de suffrage et des activités culturelles. Pour en savoir plus, nous recevons le directeur exécutif de l'AJDDH, Jedidia Mabela, s'entretient ici avec Jacques Mokonkole.
Monsieur le directeur exécutif de l'AJDDH, bonjour.
Bonjour.
Dans quelques jours, la ville de Kisangani va commémorer le 25e anniversaire de la guerre de 6 jours. Quel souvenir avez-vous de cet événement historique macabre?
Déjà, il faut dire que nos plaies ne sont pas encore guéries et elles sont toujours béantes parce que, évidemment, 25 ans après, la justice n'a toujours pas été rendue. Et je peux même dire que les âmes des victimes n'ont jamais reposé en paix.
Pourquoi dites-vous que la justice n'a jamais été rendue quand il y a cet arrêt de la Cour internationale de justice qui est en train d'être exécuté par l'Ouganda?
Quand je dis que la justice n'a jamais été rendue, c'est parce que, voilà, comme vous le savez, après cette guerre, il y a eu des plaidoyers qui ont été menés par beaucoup d'organisations sur le plan national et international. Et aussi, il y a eu cet arrêt rendu par la Cour internationale de justice qui a condamné l'Ouganda à verser 325 millions à l'État congolais. Ça, c'était un début de justice, même s'il faut le reconnaître. Cet arrêt n'a jamais été à la hauteur du préjudice subi par l'État congolais et plus particulièrement par la ville de Kisangani. Mais en dehors de ça, il n'y a plus jamais eu des condamnations contre le Rwanda, partie prenante et belligérante dans ce conflit, dans cette crise. C'est un sentiment de frustration, c'est un sentiment d'insatisfaction qui nous anime en ce moment.
L'exécution par l'Ouganda de l'arrêt de la Cour internationale de justice, ne voyez-vous pas que c'est déjà quand même un pas très important? Qu'auriez-vous souhaité de plus?
Il faut reconnaître que la justice telle que nous sommes entrés de la demander est à exécuter à plusieurs paliers. Il y a le niveau réparation. Au niveau de la réparation, on peut dire que c'est un pas important. Processus d'indemnisation de victimes tel qu'il a été enclenché avec l'exécution de cet arrêt. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le volet qui est très important pour nous, c'est la poursuite des auteurs. Ces auteurs qui ont été impliqués dans des crimes graves, des crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés sur le sol congolais et à Kisangani, ces auteurs doivent être poursuivis, doivent être condamnés.
Mais qui doit condamner ou qui doit plutôt poursuivre ces personnalités?
Exactement, au regard de la complexité de ces conflits, de cette guerre qui implique des États étrangers, nous en tout cas nous penchons pour la création d'un tribunal international ou d'une cour ou d'une chambre mixte qui va juger tous les auteurs, tous les bourreaux et les condamnés. Mais nous insistons sur le rôle nocif joué par les Rwandais, qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été condamné pour ces crimes commis lors de la guerre des 6 jours.
Oui, mais le Rwanda n'a jamais été signataire de l'accord de Rome.
Et exactement, c'est parce que le Rwanda récuse et la compétence de la Cour internationale de justice qu'il est important pour nous. Nous plaidons pour la création d'un tribunal international sur les Congos. Comme ça, le Rwanda pourrait enfin répondre de ses actes perpétré lors de la guerre des 6 jours, mais aussi de tout ce qui se passe maintenant, qui doit être documenté et rapporté et présenté à des juges.
Monsieur le directeur exécutif Jedidia Mabela, comment comptez-vous célébrer ce 25e anniversaire à Kisangani?
En tant qu'activiste, ça fait plusieurs années que nous sommes impliqués dans la commémoration de la guerre des 6 jours, notamment au niveau d'ailleurs de la Lucha. Ensuite, avec Ukumbush, nous avons eu à organiser plusieurs éditions. Et cette année ici, AJDDH se joint à Ukumbush. Et il y a aussi CPN, il y a aussi Amnesty International qui exécute un vaste projet autour de la justice au Congo. Et donc avec ces 4 organisations, nous projetons des activités commémoratives du 25e anniversaire de la guerre de 6 jours. Tout va commencer les 5 les 5 juin, nous avons un culte en mémoire des victimes. Et la messe sera dite au niveau de la paroisse Maélé. À l'issue de cette messe-là, nous allons lire notre mémorandum pour lancer un plaidoyer national et international pour la justice sur la guerre de 6 jours.
Que faire à l'avenir pour éviter ce genre de drame?
Ce qu'il faut faire, c'est que l'État congolais doit construire une armée républicaine. Et aussi, nous devons tous, d'un commun accord, nous mettre d'accord sur le pacte républicain, la constitution, et éviter de recourir aux armes comme moyen d'expression politique ou comme même moyen pour accéder au pouvoir. Et donc on doit tous reconnaître que la guerre, elle est mauvaise, la guerre détruit le tissu social de notre nation, et que s'il faut compétir politiquement, il faut le faire selon les normes républicaines, il faut le faire à travers les élections.
Monsieur le directeur exécutif de la JDDH, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Seboujangwe, à Jude Mister Bilanda, à Richard Junior Kamunga et à Billy Landry Betou. Bonne soirée à toutes et à tous.